On va lire les versets 1 à 5. C'est vraiment l'introduction qui va au cœur de l'image qui est dressée. Vous savez que la Bible enseigne beaucoup de vérités en images, Jésus spécialement. Et c'est des images qui enseignent des vérités spirituelles. Et je suis vraiment content que dans le mois de mai, on va regarder le beau livre d'images de Dieu, avec des images, mais qui ont des vérités profondes, des vérités libératrices, des vérités aussi qui nous... qui montre qu'on est unis, qu'on est un. Fait que c'est vraiment des vérités extraordinaires qu'on va voir ensemble. La première étant la vigne. Je vous l'ai dit tantôt, je vais vous les répéter, ceux-là qu'on va voir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on lise et ensuite, je vais prier. Puis on va commencer avec ce qu'on a pour aujourd'hui, avec notre union illustrée par la vigne. Donc, je disais tantôt, cep, ça veut dire la vigne, le tronc, là, la racine, toute cette partie-là. Sarma, c'est les branches, OK? C'est des fois, les gens... Moi, quand j'ai lu ça la première fois, c'est quoi cette affaire-là? Donc, Jésus ici qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Merci Seigneur pour le fait que c'est ta parole qu'on considère, c'est toi, Seigneur, qui nous convie à ce festin, à ce temps béni, Seigneur, ensemble, où est-ce qu'on peut entendre ta douce voix, non seulement individuellement pour chacune de nos vies ici, mais aussi ensemble, en tant qu'Église, en tant qu'étant membres les uns des autres, chacun pour notre part. Donc, puisses-tu, Seigneur, accomplir tes desseins bienveillants? Tu es bon, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, merci que tu nous révèles là-dedans comment on dépend de toi. Tu es l'arbre de vie, tu es notre vie, Seigneur, et pour quiconque ici ne te connaît pas encore comme son sauveur, pour ceux qui ne sont pas encore passés de la mort à la vie, que ces vérités, Seigneur, atteignent leur cœur pour les sauver, les amener à être nés de nouveau par l'Esprit du Dieu vivant. Seigneur, on s'en remet à toi pour que tu fasses ce que juste toi peux faire. À travers ce temps, Seigneur, où est-ce qu'on considère ta parole extraordinaire? On te demande ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, notre union illustrée par la vigne. Et j'en parlais un petit peu tantôt, mais encore une fois, je suis émerveillé de la direction du Seigneur par rapport au ministère de sa parole pour cette église. Vous savez que je prie là-dessus, puis je sais que vous priez aussi. On ne veut pas juste comme ça, là-bas, comme je te pose, dire, ah, ben là, on va aller là dans la parole. On s'attend à ce que Dieu, hein, Dieu, c'est sa parole qui nous dirige en tant que peuple avec sa parole. Et je le vois clairement pour le mois de mai. Et c'est toujours dans le fond, hein, on s'attend toujours au Seigneur. Et je crois qu'avec ce qu'on va voir, ça va nous aider à ensemble le découvrir. Le découvrir, et quand on le découvre, on s'émerveille. Gardez ce mot, on va revenir là-dessus, mais c'est important. Le thème de mai, vous le savez, c'est une nouvelle union. Ça a été pour nous un peu drôle parce que quand on parlait, c'est quand c'était tout au mois de mars qu'on s'était assis ou au mois de, en tout cas, je sais pas si c'était février ou mars, là, dans février. Puis là, on parlait de mariage et tout ça. Puis là, ouais, les dates. Puis là, on regarde la date au mois de mai, nouvelle union. Là, ça veut dire. Fait que pour nous, c'est comme quasiment un running gag, là, mais c'est ce qu'on considère ensemble. Et on va le voir, je le disais tantôt, avec quatre images ou illustrations du Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans Jean 15, c'est la vigne. La semaine prochaine, avec Éphésiens 2, puis 1 Pierre, chapitre 2, on va voir notre union avec Christ, je vais le dire, illustrée par l'architecture, parce que c'est un bâtiment qui a des racines, puis OK, un bâtiment, un édifice. Toute l'idée d'édification, s'édifier, le fondement, Jésus, la pierre angulaire, puis bon, on va voir ça la semaine prochaine. 1 Corinthiens 12, la troisième semaine. C'est quoi 1 Corinthiens 12? Comment est illustré notre union avec Christ dans 1 Corinthiens 12?
Le corps.
Le corps, yeah. Bon, il y en a une qui connaît sa Bible, les autres, ben là, vous n'êtes pas trop...
C'est juste qu'il a répondu trop vite.
Oui, oui, c'est ça. Mais ensuite, on va terminer, puis c'est drôle, ça donne le 26 mai. Comme le lendemain d'un mariage, ben ça va être justement Éphésiens 5. Fait que je vais prêcher le message du mariage en retard. Mais faites-vous-en pas, je n'ai un pareil pour le mariage, OK? Mais ça ne sera pas exactement la même chose, mais bon. Donc, le mariage. Et on va tout considérer ça, je le disais, hein, dans un ordre de complexité. Et voici dans quel sens je veux le dire. Où est-ce que c'est des vérités qui partent avec, dans le fond, les choses les plus essentielles, les plus de base. La vigne, c'est simplement notre attachement à la vie. On a été greffé à l'arbre de vie. On va voir ça dans quelques instants. Puis ensuite, mais là, bon, avec du bois, qu'est-ce qu'on fait? On fait une charpente. Mais tu sais, j'ai dit la pierre angulaire. On complexifie un peu l'image avec toute l'idée de l'architecture, là, puis un bâtiment, c'est un peu plus complexe. Le corps, ensuite, hein, un corps, c'est complexe, c'est toutes sortes de connexions à l'intérieur des organes qui dépendent les uns des autres. Bien, le mariage, c'est deux personnes, deux corps. Là, déjà, tu as l'image du corps. Souvent, l'image nouvelle prend des choses de la précédente. Je vous dis, il y a toutes sortes de choses qu'on apprend avec ces images-là. Mais le mariage aussi, pourquoi il y a une complexité? Parce que c'est tout le niveau des relations humaines, hommes-femmes, puis après ça, les enfants, la famille, la base de toute la société. Mais quand on pense complexité, ne pensons pas nécessairement juste à « oh, compliqué, on se casse la tête », à « beauté ». C'est que le Dieu qui a créé ces choses, il fait tout avec beauté, puis donc tout ça, parce que dans le fond, on voit la complexité, mais c'est quoi que ça fait? C'est que le mariage est l'ultime image qui est montrée par Christ et l'Église. Donc, vraiment, tout ça, c'est très beau. J'ai hâte qu'on voit ça tout le monde ensemble à travers les prochains messages. Tous des vérités qui illustrent notre union avec Jésus-Christ. Et je dirais que il y a une valeur, une importance à la dimension relationnelle. Toutes ces vérités de l'union, ça nous parle de notre relation avec Dieu, puis notre relation avec les autres. Et je voulais à ce sujet, un verset qu'on va voir quand même une couple de fois à travers nos études là, dans le mois de mai. « Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Ça, c'est Éphésiens 4, verset 15. Et écoutez le verset 16. « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant, un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » On vole un peu du message de la semaine prochaine, c'est un message qu'on voit pas mal la semaine prochaine, mais l'idée c'est vraiment que c'est tout ça, c'est que c'est un assemblage, c'est tout le Seigneur qui coordonne tout ça pour grandir ensemble dans l'amour, la vérité dans l'amour. Et j'ai parlé du mot émerveillement. J'espère qu'ensemble, en explorant ces vérités, on ne va pas juste apprendre des choses, on va s'émerveiller de la grâce de Dieu. De s'émerveiller de l'œuvre de Dieu, du Dieu de toute grâce, qui fait ça avec du monde, comme nous autres. Oui, bien ordinaire, mais aussi amoché, brisé, avec toutes sortes de choses, puis Dieu fait de quoi de beau avec ça. Donc, aujourd'hui, on commence avec l'image, je dirais, la plus simple. C'est pas qu'elle est simpliste, mais c'est que c'est des éléments très simples qui sont présentés ici. Une plante, dans le fond. Hein, un petit arbuste qu'on appelle une vigne qui nous donne le raisin. Et donc, on va voir avec l'union qui est illustrée par la vigne, trois caractéristiques de cette union. D'abord, la première caractéristique de l'union qui est illustrée ici avec la vigne, c'est que c'est une union de grâce. Et là, le contexte immédiat, Jésus ici à qui il parle? Il parle à des Israélites, il parle à des Juifs. Il parle, hein, Jésus est allé premièrement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Okay? Fait que là, il parle à ses disciples, il parle. Donc, le contexte immédiat nous montre à qui il parle à des Juifs. Puis le contexte plus large, parce que quand on voit dans Ésaïe 5, la vigne est comparée très clairement à Israël. Okay? Vous irez voir Ésaïe 5. Dans Matthieu 20, c'est la même chose. Ça nous parle d'un vigneron qui avait affermi une vigne à des responsables pour s'en occuper. Puis ça nous parle clairement encore là de la nation d'Israël, OK? Dans la Bible, c'est, on peut dire ça, consistant? Ça, c'est un bon repas, c'est consistant. C'est constant. C'est constant. La vigne nous parle de la nation d'Israël. Et c'est important à comprendre. Parce que quand on parle d'une union de grâce, ben, premièrement, ça nous aide à comprendre certaines choses. Parce que, est-ce que vous lisez le verset 2 avec un certain malaise? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Puis au verset 6, ça nous parle de si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche et il ramasse et on le jette au feu. Est-ce qu'il parle d'enfant de Dieu? Ça ne parle pas d'enfant de Dieu. Ça ne peut pas parler d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est sécur, il peut pas, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ça ne parle pas d'enfant de Dieu, ça parle de quoi? Ben justement, c'est là qu'on voit comment c'est important de comprendre le contexte, la vigne, de quoi qu'il est question. Je vous prends un autre passage d'Écriture qui va vous aider à comprendre. Dans Romains 9, ça nous parle de la nation d'Israël. Et ça nous dit au verset 6, dans les versets 6 à 8, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël, okay, donc d'Israël, Jacob, là, Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, c'est pas tout le monde. Okay? » Puis Jésus le dit d'ailleurs, c'est pas tous les fils d'Abraham qui sont c'est pas tous les enfants d'Abraham qui sont des fils d'Abraham. Puis il emploie deux mots, comme d'autres on dit enfant, on pourrait dire progéniture physique, ne sont pas tous les fils légitimes. Okay? Quand Jésus a dit ça avec Abraham, ici, c'est la même idée avec Israël, parce qu'il dit, et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, donc postérité physique, mais ils ne sont pas tous ses enfants légitimes. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, le vrai Israël, l'Israël de Dieu, pour prendre l'expression dans Galates, c'est les Juifs qui ont accepté leur Messie. Parce que c'est pas parce que tu es né dans la lignée d'Abraham que tu es israélite que immédiatement tu es un enfant de Dieu. OK? C'est clair. Donc, quand Jésus ici parle de retrancher, de jeter au feu, c'est des gens qui sont de la nation d'Israël, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas mis leur foi dans la promesse, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont de la, sont de la vigne, OK? De par naissance, mais ils sont retranchés parce qu'ils n'ont pas la foi d'Abraham, ils n'ont pas la foi en la promesse. Et donc, ça, c'est important à comprendre, une première chose. Puis là, nous, comment, où est-ce qu'on rentre là-dedans? C'est là que la grâce est importante. Parce que nous, là-dedans, pour le dire en québécois, on n'a pas rapport. OK? Nous, on est comme une vigne étrangère avec plein de, tu sais, des raisins, des raisins pas bons. Là. C'est une autre image qui est prise. Là. Nous, on est une vigne, tu sais. C'est l'image qui est prise, mais écoutez ce que ça dit dans Romains 11, où est-ce que l'idée, l'image de la vigne est reprise. Et là, ça nous inclut, nous, les païens, okay? les croyants d'origine non-juive. Ça dit, « Ah, si les prémices sont saintes. » Et ça, c'est la vigne originale, la vigne. Puis en passant, quand j'ai dit « Je suis le vrai cep, Jésus. » Tu sais, Israël est une image de la vigne, mais Jésus est l'ultime israélite. Il est le vrai, il est la promesse, il est... C'est lui la postérité d'Abraham. T'sais, il l'est incarné. Il est le vrai cep. Puis on va revenir là-dessus, mais il est l'arbre de vie. Okay, on va juste laisser là pour l'instant. Mais... Or, okay, là, on est dans Romains 11, verset 16. Ça dit, oh, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Donc, ça nous parle aussi de la nation d'Israël. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, ça c'est nous les païens, ok? On n'avait pas rapport, on n'était pas, ok? Si tu as été greffé à leur place et rendu participant de la nature nourricière de l'olivier, ça prend un autre terme, c'est de l'olivier, mais ça nous parle de la vigne à d'autres endroits, mais c'est l'idée que ici, nous n'étions pas par nature participants ici de cette œuvre de grâce de Dieu et on a été greffé. C'est ça la grâce. C'est que c'est une union de grâce, c'est pas, puis même pour Israël, parce qu'on voit aussi dans Romains 9, quand ça parle de la vigne, que tout est par grâce. Et donc, si on est uni à Jésus-Christ, c'est pas par des mérites que nous avons, c'est pas parce qu'on est plus intelligent, meilleur qu'un autre, tout est par grâce. Et l'idée ici, que Paul amène dans Romains, c'est que ça doit susciter l'humilité. La grâce, la réponse à la grâce, c'est l'humilité, toujours. Pourquoi? Parce que si on comprend la grâce, on voit qu'il n'y a aucun mérite là-dedans. Donc, c'est « Oh, Seigneur, tu as jeté un regard de faveur sur moi, L'humilité va dire, je ne mérite pas ça, puis c'est une reconnaissance. Okay? Ça, c'est la réponse appropriée à la grâce, c'est l'humilité. Et nous sommes dans une union de grâce, et la grâce grandit dans le sol de l'humilité. Parce que Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand on s'humilie, on a Dieu de notre bord, la grâce de Dieu qui travaille. Mais lorsque on refuse de s'humilier, l'orgueil, ben, on a la résistance de Dieu. Et là-dessus, je vous lis Jacques au chapitre 4, versets 5 et 6. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. » Ça parle aux enfants de Dieu ici. « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, une union de grâce. Et quand on parle de la grâce, on doit parler de l'humilité qui va avec, parce qu'une relation avec le Dieu vivant, c'est une relation qui est dans l'humilité. Et pour le mettre ici, dans les termes trinitaires, notre relation avec le Saint-Esprit, qui vit en nous, par lequel nous vivons, est en lien direct aussi avec notre relation avec Jésus-Christ. Puis ici, j'amène Jésus-Christ, puis le Père, qui est le vigneron. Tous ensemble, nous sommes son ouvrage, le Dieu trinitaire. Mais je vais amener particulièrement notre attention sur le Seigneur Jésus-Christ, qui dit ici, « Je suis le vrai cep. » Parce que quand on parle de grâce de Dieu, et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Des fois, on parle de grâce de Dieu comme étant une chose, quelque chose d'impersonnel. Comme, tu sais, « Ah, ben la grâce de Dieu m'a aidé, puis tout ça. » Mais, bibliquement, savez-vous que la grâce, comme Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il aurait pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie et la grâce. » Parce que ça nous dit dans Tite, au chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est qui ça? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la source de salut pour tous les hommes. Il a été manifesté. Donc, Jésus est la grâce de Dieu. Il est la grâce incarnée. Toute la bonté de Dieu, tout ce qu'on peut connaître de cette grâce, elle est révélée en Jésus-Christ. Jésus est la grâce de Dieu, faite chair, révélée au monde. Okay? Et donc, si on continue le passage dans Tite, c'est intéressant parce que, donc je vous ai lu le verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Beau verset sur la divinité de Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, ça parle de Jésus encore, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Puis regardez ce qu'il dit au verset 15. Il parle à Tite ici. « Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité » que personne ne te méprise. Oui, OK, avec le contexte du fait que comme Timothée, c'était un prédicateur qui était plus jeune et tout ça, que certaines personnes plus vieilles dans l'Église pouvaient mépriser le fait qu'il était jeune. Ben relativement jeune, là, je pense qu'il avait peut-être à peu près mon âge, là, mais c'était jeune pour l'époque, peut-être même quarantaine, mais peu importe. Paul, ici, exhorte Tite à prêcher avec autorité. Parce que lorsqu'on comprend que Jésus-Christ est la grâce de Dieu incarné, comme je viens de vous le dire, ben là, ça fait du sens. Puis là, je vais vous expliquer. Pourquoi, écoutez bien, pourquoi, souvent quand on dit prêcher la grâce, puis tout ça, pourquoi c'est associé à la mollesse, puis à comme la permissivité? N'est-ce pas souvent qu'on entend ça, vous savez de quoi je parle, là? Ah, ils prêchent la grâce, là, ils peuvent faire n'importe quoi, puis vous avez déjà entendu ça, vous savez de quoi je parle, là? N'est-ce pas? Écoutez pourquoi. Écoutez bien pourquoi. Parce que, comme le fait, OK, Jésus, on s'entend tout. Bon, là, Jésus est la grâce. On s'entend aussi que Jésus, c'est la vérité. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité incarnée. Tout ce qu'on peut connaître sur Dieu est révélé en Jésus. Ben, si je prends la vérité puis que je la prêche sans Jésus, c'est une vérité qui est impersonnelle, qui est froide, qui est repoussante. N'est-ce pas? Tu sais, c'est bang, la vérité par la tête, puis c'est pas très agréable. Ben, c'est la même chose avec la grâce. Pourquoi que la grâce est prêchée avec mollesse puis permissivité? Parce qu'elle est prêchée sans Jésus, sans la prééminence de la personne de Jésus-Christ. Et ça donne une grâce qui est impersonnelle, non relationnelle, froide elle aussi, indifférente et non bienveillante. C'est la grâce, c'est de même. Parce qu'il manque la personne de la grâce. La grâce et la vérité sont personnifiées par Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'important vraiment là-dedans. Ce n'est pas juste une doctrine, une vérité, c'est une personne, Jésus. Et la vérité et la grâce, les deux à la fois, parfaitement. Ainsi donc, l'union de grâce. Okay? La première chose qu'on regarde, là, notre union illustrée par la vigne, on voit la grâce. C'est un rappel que la grâce de Dieu est profondément relationnelle. Pourquoi quand on comprend comme il faut la grâce, on ne fait pas n'importe quoi? Parce qu'on comprend qu'on pêche contre une personne. Qu'on tourne le dos à celui qui nous a tant aimés, qui prend soin de nous, qui est tout le temps bon avec nous. Pourquoi qu'on serait indifférent puis on tournerait le dos à quelqu'un de même? C'est pour ça qu'on peut l'amener avec autorité. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur autant dans la vérité que dans la grâce. Et lorsqu'on comprend notre union à la lumière de la grâce de Dieu et comment c'est relationnel, on voit que le fondement de notre relation avec Dieu, c'est la grâce. On ne l'a pas cherché, il nous a cherché en premier. On ne l'a pas aimé en premier, il nous a aimé en premier. Tout est par grâce. Et là, dans ce temps-là, ça change vraiment la dynamique de ma marche avec le Seigneur. Dave, te rappelles-tu quand on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1? C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Avec M. Miller, dans la session sur la session pour les comment ils appelaient? Les workers? Les
youth workers.
Les youth workers. Ils ont été des youth workers, nous autres. On se pensait, bon, c'est pété bretelle. Ouais, c'est ça. Mais il y a une chose qu'il nous a dit. C'est ça aussi ce que Paul communique dans 2 Corinthiens. N'oublions jamais qu'on est ce qu'on est par la miséricorde et la grâce de Dieu. N'oublions jamais ça, mes amis. On n'est rien en nous-mêmes. Qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi tu glorifierais comme tu l'as reçu? Et rappelons-nous aussi que nous subsistons par sa grâce. Non seulement on connaît Dieu par sa grâce, mais on continue avec Dieu toujours et encore par sa grâce. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été... » Donc, Paul vient, il est devenu l'apôtre aux païens par la grâce de Dieu. « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc, Jésus qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Et donc, Paul, qui se rappelait qui il était, d'où il était sorti et comment il avançait, par la grâce et encore la grâce, c'est la nature même de notre union vitale et je dirais organique. C'est ça l'idée avec une vigne, des racines, c'est une union vraiment ici que la vie de Jésus coule dans nos veines. Et tout ça, c'est par la grâce. Donc, c'est la première vérité qui nous est illustrée ici avec cette vigne, une union de grâce. Maintenant, la deuxième caractéristique de cette union, c'est une union de vie. Et juste en passant, là, grâce, vie, puis le prochain, je vous le dis tout de suite, ça va être fruit. Vous allez voir, c'est un élément qui revient dans toutes les illustrations. OK? Je vous dis, là, on a vraiment... Je pense qu'on va apprendre des choses en ce moment. En tout cas, moi, j'en ai appris. Peut-être que vous, vous les savez déjà, mais... Moi, vraiment, il y a des choses, ah ouais, tu sais, des fois, c'est sous notre nez, c'est bien simple, mais c'est comme on l'avait pas comme tout mis ensemble. Tu sais, genre d'affaires qui nous arrive quand on étudie Genèse 3, là, qu'on connaît tout par cœur, mais ah, j'avais pas vu ça dans Genèse 3. Ben là, c'est des vérités qu'on connaît tous, puis ouais, j'avais pas vu ça. En tout cas, une union de grâce, maintenant, une union de vie. Et là, je vais parler de vie dans un instant, mais avant, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur le terme demeurer. Parce que regardez ici ce que Jésus dit. On va lire les versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez pas mal un mot-clé là. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est important si on veut comprendre les versets qu'on lit là, de comprendre le mot. demeurer ici parce qu'il est employé à tellement de reprises dans les versets qu'on considère ce matin. Et donc, ce mot-là, ça veut, c'est un mot-là qui veut simplement dire de rester à la même place. Pas besoin de faire une grosse étude de l'étymologie du mot. C'est vraiment un peu comme en français. Hein, quand on demeure à quelque part, ben on reste à cette place-là. Okay? C'est ça que ça veut dire. On reste à la même place. Dans le sens d'y faire son habitation. D'où, d'ailleurs, en français, on dit « c'est ma demeure ». C'est là que je demeure. C'est la même place où est-ce que je suis. Puis c'est là que ma vie se passe. Okay? Et dans le contexte, par contre, ça ne parle pas, évidemment, d'une maison où est-ce qu'on habite, mais vraiment, ça parle de rester dans la foi. Rester dans la tu sais, Jésus a révélé qui il est, puis les vérités sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bien, demeurer là-dedans, rester dans cette foi, dans cet attachement à Dieu, d'en faire une habitude de vie, l'endroit où est-ce qu'on a fait sa place, ben, c'est ça notre union de vie. Avant de développer un peu plus, je veux juste vous amener ce point-là de la vie avec les autres images. Ici, là, l'image de la vigne, ça nous montre que Jésus est notre source de vie. Hein? Les racines, la racine nourricière, ça monte dans le tronc, ça va dans les branches, puis le fruit, donc Jésus est notre source de vie. La semaine prochaine, on va voir le bâtiment, OK? Où est-ce qu'on voit que c'est le lieu de vie? Hein, un bâtiment, t'es là-dedans, hein, puis là tu vis, puis même que c'est spécial parce qu'il y a des pierres vivantes, même les murs, ils vivent dans ce bâtiment de Dieu. Puis on fait partie de ça. Ensuite, ben, il y a le corps humain, hein, c'est comme le véhicule de la vie, hein, comment que notre vie s'exprime, comment, ben, c'est à travers notre corps, puis quand il n'y a plus de vie dans notre corps, ben, on est mort, ben, en tout cas physiquement. Donc c'est l'instrument, le moyen par lequel la vie s'exprime. Et le mariage qui est spécial, c'est que là, c'est la relation, l'échange, puis même la multiplication de la vie. Parce que, tu sais, dans un mariage, il y a cette connexion entre deux personnes, mais aussi, on sait que souvent le mariage, c'est comme ça aussi que Dieu va donner des enfants, et donc la vie se multiplie. Donc, tout ça, c'est ça a rapport avec la vie. Une union de vie qui est exprimée de différentes façons à travers les images qu'on va considérer dans le mois de mai. Mais ça nous aide un peu à mettre de la chair autour de l'os sur cette idée de l'union de vie. Et donc, toutes ces illustrations qu'on voit dans le Nouveau Testament, ce sont différents aspects de notre vie en Jésus, de notre union vitale avec Jésus. Et l'idée que Jésus ici sème, avec le concept de demeurer, OK? Demeurez en moi, mes paroles en vous. Puis il me sent un peu à toutes les sauces. Ça fait le tour, là. Quand que Jésus parle de demeurer, de rester, de faire son habitude de tout ça, c'est que ça nous parle que Jésus est notre vie, puis de rester dans cette conscience que nous dépendons de lui. Et ici, avec la vigne, c'est justement, on est rattaché à Jésus, la racine nourricière. La Bible nous dit que Jésus est notre vie et que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, puis on vit par la foi. Et là, je vais vous amener un point hyper important, écoutez-moi bien. On a parlé de Jésus et la grâce de Dieu. Jésus est la vie aussi. Quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit une dépendance à celui qui est notre vie. Savez-vous de quoi ça nous parle, ça? Ça nous parle des fameux deux arbres dont on a souvent parlé. Jésus est l'arbre de vie. Puis quand on voit cette vigne, il dit « Je suis la vraie vigne, là, je suis le vrai cep. » Ben, il est l'authentique arbre de vie. Puis la grâce de Dieu, c'est qu'on a été attaché à ça, puis maintenant, on est vivant. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. On était greffé, puis maintenant, de mort que nous étions, nous sommes vivants. Et quand on parle des deux arbres, et ça, là, je ne vais pas vous prêcher un message des deux arbres, parce que ça sera un autre message au complet, on parle en fond de deux dépendances. Parce qu'avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'apprends tout ce que je suis supposé de faire, puis je suis capable de dépendre de ma connaissance, de ce que j'ai appris pour vivre. Mais ce n'est pas une vie. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ça ne va pas bien. Pourquoi? Parce que la dépendance est à moi, à ma chair. Mais quand je vis en union avec Christ qui est ma vie, je vis attaché à l'arbre de vie, à Jésus, là, il y a du fruit. Là, c'est lui qui vit en moi. C'est ça la foi. C'est ça, demeurer. C'est ça, notre union. C'est de vivre consciemment. OK, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'espère que ça vous aide à comprendre. Mais j'ai une autre pensée importante à développer ici, avant le prochain point. Hein, Paul, il dit, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Vous connaissez le passage dans Philippiens 1:21. Et c'est ça l'idée, hein, de demeurer. Hein, c'est Christ qui est ma vie. Puis c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 3, et ça c'est important. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » J'ai un appel à l'évangile ici. Est-ce que tu es pur par la parole? La parole de Dieu, c'est la parole qui régénère. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Puisque vous avez été régénérés ici, ça parle de comment on a été sauvés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que tu peux dire que tu as été régénéré, que tu es né de nouveau, qu'il y avait un avant, puis qu'il y a un maintenant, qu'il y a un passage de la mort à la vie? Est-ce que tu peux dire que tu as été purifié? Pas que tu t'es purifié toi-même, mais que Dieu, par sa grâce, puis par son œuvre dans ta vie, que maintenant, tu peux regarder, on va le dire comme ça, là, regarder Dieu dans les yeux et dire, « Merci Seigneur, je suis sans péché devant toi, par ta grâce. » Puis ça, si c'est vrai, c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à votre esprit, que vous êtes un enfant de Dieu. Puis je lance l'appel parce que c'est important. Es-tu une nouvelle création en Jésus-Christ? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? C'est la question la plus importante. On parle de choses ici, je m'adresse majoritairement aux chrétiens. Mais il faut que ça commence. La vie chrétienne a un commencement. On ne naît pas dans ce monde comme étant chrétien. On peut avoir eu des parents chrétiens, on peut être dans un environnement chrétien, mais on ne devient chrétien, enfant de Dieu, que par la foi, par notre foi. Le juste vivra par sa foi. D'ailleurs, c'est tellement important dans l'Ancien Testament, ça c'est Habacuc, c'est repris à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Parce que c'est comme ça qu'on a accès à la grâce et à la vie, c'est par la foi. Écoutez Colossiens, chapitre 2, toujours dans ce sens-là. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Est-ce que tu peux dire que ça, c'est arrivé dans ta vie, que « Merci Seigneur, tu m'as fait grâce de toutes mes offenses, j'étais mort et maintenant je suis vivant. » Je le sais, la lumière est allumée, je suis plus dans le noir, je suis dans la lumière. Je suis reconnaissant du fait de te connaître, mon Dieu. Oh, ma vie n'est pas parfaite, mais je suis reconnaissant que tu es à l'œuvre. Oh, c'est pas un exemple de perfection, ma vie, mais c'est certainement un exemple de rédemption. Merci, Seigneur. Et mes amis, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que par Jésus-Christ et par la foi en Jésus-Christ. J'ai pas fini mon message. D'habitude, mon appel est à la fin, mais je voulais l'amener à ce moment-là. Par rapport à la vie, est-ce que tu es en vie ce matin? Et ça nous dit, hein, connaissez-vous Éphésiens? C'est ce que Dieu a utilisé dans la vie de ma femme pour l'amener au salut. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, on n'est pas sauvés par nos œuvres. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce au moyen de la foi. Et pour les enfants de Dieu, vous connaissez Deutéronome 30, verset 19. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Oui, choisir la vie, c'est la décision pour rentrer dans la vie, pour être sauvé, mais c'est aussi la décision pour demeurer. Chaque jour, Christ est ma vie. Puis demeurer dans cette vie, c'est deux arbres, c'est deux dépendances. Seigneur, je ne veux pas dépendre de moi, de ma sagesse, je veux te reconnaître dans toutes mes voies. Et Seigneur, tu es ma vie. Donc, une union de grâce, une union de vie, et pour terminer ce matin, une union fructueuse. On va parler de fruits maintenant. Le grand but à travers ce qu'on voit là dans les versets, puis ce qui transcende l'ensemble du passage, c'est vraiment le concept du fruit. Avez-vous remarqué comment ça parle de fruits, de fruits, de fruits? Le Père qui est mon, pour porter plus de fruits, puis si vous portez du fruit, vous allez glorifier mon Père. L'idée de fruit est là beaucoup, beaucoup, à travers le passage. Pourquoi? Parce que le fruit est le produit ou le résultat de la grâce et de la vie. Lorsqu'on est attaché à la vigne par la grâce de Dieu et que la vie coule maintenant dans nos veines, que cette sève, ben, ça va produire du fruit. Donc, c'est l'accomplissement de ce qui a été amené avant. Lorsque la grâce de Dieu est là et que la vie de Dieu est là, ben, il va y avoir du fruit. Ça va se manifester. Ça nous parle de, dans Galates du fruit de l'esprit, le fruit de sa vie. Et donc, j'aimerais ça regarder ça pour terminer le message en toute simplicité. Là, c'est pas très compliqué ce que je veux regarder avec vous autres, mais le but ici du fruit, c'est de pointer, c'est de magnifier, de glorifier celui qui est la source de grâce et de vie. Parce que le fruit, ça nous montre, c'est ça. Ça nous montre de qui ça vient. Tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Ça fait bien paraître, glorifier Dieu, ça veut dire ça fait bien paraître Dieu. Dieu ici, le Père, hein, qui est présenté comme le vigneron, puis on sait le Fils et la vigne, et l'Esprit, c'est la vie de Dieu, c'est l'Esprit de vie qui coule et qui donne ce fruit. Okay? Donc le Dieu trinitaire est à l'œuvre pour que nous portions du fruit. Et j'aimerais juste regarder ici brièvement, parce qu'on parle de porter du fruit, ben le Père est motivé par rapport à ça. On apprend dans ce passage-là, et c'est, je dirais, où est-ce qu'on a ça ailleurs, de façon si claire, on ne l'a pas. Ça nous dit que le Père, son rôle fondamental, c'est d'émonder. Et vous savez quoi, émonder? C'est pas enlever le monde, là. Émonder, c'est une pratique d'agriculture où est-ce que, vous savez, quand on a un arbre fruitier comme ça, quand on arrive à ce temps-ci de l'année, au printemps, il y a ce qu'on appelle, il y a des branches, là, en fait, je ne me rappelle plus du nom, je dis ce qu'on appelle, mais c'est des branches droites de main, c'est parce que ta belle branche qui a donné, mettons, des pommes, justement des raisins, comme ici, une vigne. Puis là, ça a apporté du fruit, mais là, tu as d'autres branches qui poussent, des petites branches tannantes qui n'ont pas rapport, puis qui, dans le fond, eux autres, ils poussent en orgueil, mais souvent, c'est ça, t'as comme ça, puis d'autres avec notre pommier, ils poussaient comme droite de même. Qu'est-ce que ça fait, ça, pour l'arbre? Ben, c'est que là, la sève qui allait toute vers cette branche-là qui porte du fruit, ben là, c'est que là, il y a un peu de sève qui part dans cette branche-là, mais ça part pas encore, elle porte pas encore de fruit, ça prend pareil de la sève, puis là, elle. Fait que, quand que le vigneron s'occupe de sa vigne, ben, il coupe ces branches-là. Parce qu'ils ne servent à rien, ils ne portent pas de fruits. En fait, ils vont enlever de la sève pour que ça puisse porter. C'est pour ça que ça dit qu'ils coupent, pour que celle-là qui déjà porte du fruit porte encore plus de fruits, parce qu'il va y avoir plus cette sève nourricière qui va faire qu'il va porter plus de fruits. Okay? C'est ça l'image d'émonder. Ça dit que le Père fait ça. Le Père, on sait, il a fait ça avec la nation d'Israël. On peut tout parler au niveau national, ce qu'il peut avoir avec ça. Mais pour le sujet du message ce matin, si on parle de l'émondage au niveau personnel dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire? Puis même dans, exemple ici, une petite vigne du Seigneur, un petit échantillon de son corps, de l'édifice de Dieu. Émonder, c'est quoi? Écoutez-moi bien, émonder, c'est le Père qui, à travers sa parole, coupe ce qui n'a pas rapport. Les gens vont dire, c'est les épreuves. Les épreuves, ça fait partie de ça, mais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur a des épreuves. C'est pas les épreuves qui émondent, parce que tout le monde a des épreuves. Mais c'est que le Seigneur, par le ministère de la parole et le Saint-Esprit, qui illumine la parole, va donner un sens, va communiquer quelque chose avec cette épreuve. Donc, oui, l'épreuve, le brisement, ça fait partie de l'émondage, mais l'émondage en tant que tel, c'est le Saint-Esprit qui amène la lumière de la parole sur ce qu'on vit. Puis Dieu va nous dire, ça ne porte pas de fruit. Ça va emporter. C'est que ça, dans le fond, l'émondage, c'est ça que Dieu fait. C'est ça qui va faire qu'on porte plus de fruits encore. Et on est l'objet de ses bons soins. Je ne sais pas pour vous, mais je te dis, wow! Dieu s'occupe de nous autres. Il ne nous laisse pas aller et être un arbre tout décoiffé de même. Là. Non, il prend soin de nous autres. Puis là, hey, on le glorifie en portant du fruit. Les gens pensent, ils disent, wow! Quel Dieu extraordinaire! Il fait toutes choses à merveille. C'est ça le but ici, c'est ça l'image. Et, j'ai perdu ma page, je n'étais pas à la bonne place. Donc, le ministère de la parole, ça inclut le brisement. Et, connais-tu Ésaïe 3:1? T'es supposé connaître ça. Ah, il connaît pas de suite. Ah, t'es plus notre expert. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Puis là, ça parlait des ressources d'eau, ça parlait des choses physiques. Mais il y a une vérité là-dedans. Dieu, avec son émondage, souvent, c'est ça, l'épreuve, puis qu'est-ce qu'il fait? Il nous enlève tout appui puis toute ressource. Il dit, ça là, arrête de mettre de l'énergie là-dedans, je te coupe les vives d'énergie, parce que c'est pas quelque chose qui va porter du fruit. Fait qu'au lieu de dire, ah, ben Seigneur, vraiment, ça n'a pas de bon sens, je dis, merci Seigneur. Ça sert à rien ce que je faisais là. Merci de m'arrêter à tout perdre mon énergie et à me décourager parce que ça n'allait pas porter du fruit. Il faut penser différemment même. Puis, c'est juste pour vous dire, là, ça, c'est pas la configuration par défaut de la chair. OK? Ça, c'est par le renouvellement de l'esprit, ça, là. Ça, c'est le Seigneur qui nous enseigne ces choses. Mais c'est ça. Si une branche n'est pas fructueuse, ben, elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas, pas branchée, elle n'est pas comme elle devrait avec l'arbre de vie. C'est des choses probablement qui viennent de la connaissance, l'arbre de la connaissance. Là, je ne veux pas mêler trop les images, là, mais c'est pas quelque chose qui va porter du fruit. Il faut juste dire « Merci Seigneur de m'arrêter, j'abandonne cette poursuite ». Et je vais me laisser guider avec ce que toi, tu m'amènes à poursuivre, à diriger. Je vais ajouter foi à ce que toi, tu me montres d'avoir foi. Donc, voyez-vous l'ensemble d'images. J'espère que je vous ai... C'est sûr que des fois, c'est dur de faire complètement le tour, mais on a vraiment ici un tour qui nous parle de la grâce de Dieu, la vie de Dieu, puis le fruit que ça donne. Et lorsqu'on dépend de Dieu, de sa grâce et de sa vie, ça porte du fruit. Et même plus que ça, la production de fruits va augmenter par l'augmentation de la grâce et de la vie. Plus on laisse à la grâce de Dieu prendre la place à sa vie, plus le fruit aussi va augmenter. Il y a vraiment ici quelque chose de vivant qui grandit. Et le Père qui prend soin de nous infuse par le ministère de sa parole, par le Saint-Esprit, il infuse la vie et il brise la mauvaise dépendance et il suscite la bonne par ses bons soins envers nous. Et ça, c'est la merveille de notre union avec Dieu, illustrée par la vie. Et voici la fin de mon message. J'aimerais conclure avec cette pensée. C'est bien simple, là. Qu'est-ce qu'on retire aujourd'hui de notre texte, du message? Pourquoi le Seigneur nous a donné ces choses? Je vais prendre le mot enseignement. Pourquoi le Seigneur nous a donné cet enseignement ce matin? Je pense que c'est plus que juste pour de l'enseignement. C'est pour de l'émerveillement. Et là, tu sais, on a des vérités dans la parole, puis c'est le fun, on apprend de la parole, puis... Mais est-ce qu'on est émerveillé? Parce que l'enseignement sans l'émerveillement, ça demeure stérile. Oh, j'ai appris des choses, mais Dieu veut qu'on s'émerveille de lui et dire « Wow! Seigneur, par grâce, je suis greffé. Je n'avais pas rapport là, dans le plan. Là. Puis par pure grâce, tu m'as greffé. Puis maintenant, là, j'ai la vraie vie. J'ai la vie de Christ qui coule dans mes veines, qui fait que je porte du fruit pour toi. C'est comme « Wow! » J'espère que dans nos cœurs, quand on voit ces choses, c'est plus que « Ah oui, j'ai appris des choses », c'est comme « Wow, Seigneur, je suis émerveillé ». Et je vous dirais que pour toutes les images, j'espère que c'est vraiment ce que Dieu va faire dans nos cœurs. Je veux pas juste qu'on apprenne des choses froidement dans un livre. Je veux qu'on s'émerveille du Dieu qui se révèle à travers ses vérités. Qui révèle des choses, oui, sur nous puis notre union avec lui, mais... sur la grandeur de son œuvre, comment ça dépasse juste notre petite personne, mais aussi comment ça nous émerveille de ce grand Dieu qui fait tellement les choses à merveille. Comment c'est... Wow! C'est tellement plus grand que nature. Et donc, ces vérités sont précieuses, sont personnelles, sont fertiles. C'est des vérités vivantes que Dieu nous donne dans sa grâce. Es-tu émerveillé d'être une branche pour Jésus-Christ? Porter du fruit à sa gloire, greffé sur l'arbre de vie lui-même. Tu sais, on est triste quand on lit dans Genèse, « Ah non, l'arbre de vie, on ne peut plus retourner. » Mais est-ce qu'on est content que, waouh, l'arbre de vie, le calvaire, Christ est allé sur le bois infâme, c'est l'arbre de vie retrouvé, restauré. On est l'objet des soins personnels bienveillants, bienfaisants du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Est-ce qu'on en revient de ça? Ou on n'en revient pas? J'espère qu'on n'en revient pas. C'est tellement beau, c'est tellement précieux. Puis le Saint-Esprit, hein, lui aussi fait partie de tout ça. On lit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et donc, voici mon appel. Tu es un enfant de Dieu, tu vis ces choses, je t'encourage simplement à exprimer ta reconnaissance. Merci Seigneur. Juste, comme dirait Bounikou, that's it. Merci Seigneur. Puis, c'est une expression de notre foi quand on dit merci comme ça, parce qu'on reconnaît, wow, c'est la vérité. C'est pour moi, c'est vrai. C'est notre foi qui parle comme ça. Et peut-être que tu as besoin de confesser au Seigneur puis de te repentir de ton incrédulité, ton ingratitude, d'avoir pris ces choses pour acquis. Peu importe, je pense que la chose, simplement, c'est d'aller à Dieu, soit avec un merci ou dire, « Oh, Seigneur, je veux me rendre compte à quel point c'est grand. Renouvelle en moi cet émerveillement d'un enfant face à un si grand salut, une si grande grâce. » Merci, Seigneur. On est content d'avoir pris du temps ce matin comme ça dans ta parole vivante. Tu es vivant. Oh, et que on est un petit peuple ici, on n'a rien pour flasher puis impressionner. Mais Seigneur, toi, tu nous impressionnes. Oh, que tu continues toujours de nous impressionner. Merci que tu as voulu qu'on ne soit pas impressionnant, parce que comme ça, c'est toi qu'il faut qu'il soit impressionnant. Merci qu'on n'a pas rien à essayer de vendre de salade, puis de bebelle, puis de gamique, mais on prêche Christ. La gloire, l'union merveilleuse qu'on a en lui, Seigneur. Merci pour toutes ces choses. C'est tellement précieux, c'est merveilleux. Ah, Seigneur, on vient à toi ce matin humblement. Ça dépasse la compréhension. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, mais merci, Seigneur, qu'on fait partie de ce plan rédempteur, restaurateur extraordinaire. Et on s'unit aussi d'un même cœur, Seigneur, s'il y en a ici ou qui plus tard vont écouter ce message qui ne te connaissent pas, oh Seigneur, qu'ils ne soient pas indifférents. S'ils entendent ta voix, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, mais qu'ils répondent par la foi. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse le temps de prier si vous voulez.